Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Il y a de bonnes raisons de croire que des viols ont été commis lors de l'attaque du Hamas, selon un rapport de l'ONU publié hier, mais sans pouvoir préciser le nombre de ces violences sexuelles.
C'est aujourd'hui le Super Tuesday aux États-Unis, le rendez-vous le plus important des primaires. Donald Trump espère enterrer définitivement sa rivale Nikki Haley. Un duel contre Joe Biden se dessine.
Autre grand rendez-vous en Chine cette fois, c'est le début de la session annuelle du Parlement. Nous retrouvons notre correspondant en direct de Pékin alors que le budget de la défense continue d'augmenter.
Nous reviendrons également dans ce journal sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution, votée à une large majorité hier en Congrès, ainsi que dans le billet politique de Jean Lemarié à 8h15. Il se demandera si la France est encore la fille aînée de l'Église.
L'ONU a publié hier un rapport sur les soupçons de violences sexuelles lors des attaques du Hamas le 7 octobre. Les Nations Unies ont recueilli des informations claires et convaincantes selon lesquelles des otages ont été violés. C'est en résumé la conclusion de ce rapport. Et c'est la première fois depuis le début du conflit entre le mouvement islamiste palestinien et l'État hébreu qu'une organisation internationale confirme les allégations d'Israël. À Jérusalem, Thibault Lefèvre.
Ils ont examiné 5000 photos et 50 heures de vidéos. Ils ont participé à plus d'une trentaine de réunions lors d'une visite de 17 jours en Israël et dans les territoires occupés. Pramila Patten et son équipe de 9 experts sont désormais convaincus. Des otages ont été violés le 7 octobre et peut-être même après. 3 lieux sont concernés. Le kibboutz de Reim, le site du festival de musique Nova et la route 232 qui longe Gaza du côté israélien. Le rapport précise que dans la majorité des cas étudiés, les victimes ont été tuées après avoir subi des violences sexuelles. Pour la défenseure israélienne des droits des femmes, Ruth Halperin Kadari, c'est une étape cruciale.
Je vois ce rapport comme une avancée majeure, peut-être la plus grande avancée que nous pouvions espérer. Il y a une reconnaissance claire des violences sexuelles qui se sont déroulées pendant l'attaque du Hamas. Il n'est désormais plus possible de continuer à nier la réalité.
Les rapporteurs ont aussi émis des critiques sur les méthodes d'enquête israéliennes et ils demandent à l'État hébreu de laisser les Nations Unies continuer à rassembler des preuves.
Et puis les tensions montent encore entre Israël et l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, qui fait état de torture, selon elle, contre ses employés. Israël accuse de son côté l'agence de faire travailler plus de 450 terroristes à Gaza, l'enclave assiégée où les médiateurs tentent toujours d'imposer une trêve. La guerre dure depuis bientôt 5 mois. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, se dit profondément inquiète vu la situation humanitaire. Les États-Unis, où de nombreux électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui. C'est le Super Tuesday, le rendez-vous le plus important des primaires. 15 États votent pour désigner les candidats des partis à la présidentielle de novembre. Bonjour Sébastien Paour.
Bonjour à tous.
Avant de revenir sur les enjeux de ce super mardi, vous êtes notre correspondant à Washington. Rappelez-nous d'abord comment fonctionne cette journée.
Alors, le Super Tuesday, c'est le rendez-vous où il y a le plus de délégués des partis en jeu. Et ce sont ces délégués qui désignent les candidats à la présidentielle lors des conventions de l'été. Cette année, ce sera mi-juillet pour les Républicains et fin août pour les Démocrates. Ces délégués, ils sont 2429 chez les Républicains. Il en faut donc 1215 à Trump pour être sûr d'emporter l'investiture. Et aujourd'hui, il y en a plus d'un tiers en jeu dans 15 États. Le plus grand nombre, c'est en Californie, 169 délégués. Et dans cet État de l'Ouest, eh bien, la règle, c'est que le vainqueur emporte tout. Donc si Trump fait au moins 50% des voix, il empoche tous les délégués. Ce n'est pas le cas dans tous les États. Les autres États où on vote aujourd'hui, ce sont des électorats très différents. Ça va du Texas républicain au Massachusetts démocrate, en passant par les États où c'est plus disputé, comme la Virginie ou la Caroline du Nord.
Et maintenant, les enjeux, Sébastien, ils sont assez limités.
D'habitude, il y a du suspense, ça permet de voir émerger un candidat dans la course à l'investiture, mais pas cette année. Côté démocrate, c'est classique, hein, le sortant se représente, sauf incident, Biden sera désigné, c'est quasi plié. Côté républicain, c'est aussi quasi plié, et ça c'est beaucoup plus rare. Trump a décroché tous les États depuis le début des primaires, il n'a perdu que dans la capitale Washington, qui a été remportée dimanche par sa dernière adversaire Nikki Haley. L'ancienne ambassadrice aux Nations Unies a dit qu'elle resterait en course au moins jusqu'à aujourd'hui. Elle abandonnera probablement après. Et côté Trump, on a déjà prévu de décrocher 773 délégués ce soir et de ne plus pouvoir être rattrapé dans 2 semaines.
Sébastien Paour, et parmi les enjeux qui pourraient peser lourd dans la réélection ou non de Joe Biden, le vote des Latinos, bien moins enclins à voter démocrate cette année selon les sondages, beaucoup penchent pour Donald Trump. Exemple à Uvalde, où la communauté latino représente plus de 80% de la population. Cette ville a subi il y a 2 ans l'une des pires tueries de masse de l'histoire du pays. 19 enfants et 2 enseignantes ont été tués à l'arme automatique par un jeune homme de 18 ans. Sur place, Sarah Mansoura.
Sur la petite place du centre-ville ou devant l'école élémentaire Rob, les portraits des 21 victimes n'ont pas bougé. Uvalde et ses 15 000 habitants vivent encore avec ce traumatisme. Summer pousse sa fille d'un an sur une des balançoires du parc.
Ça fait 2 ans, mais le temps n'y fait rien. Le temps, l'argent, rien ne les ramènera.
À 19 ans, elle s'apprête à voter pour la première fois et ce sera pour Donald Trump.
Je trouve qu'il a fait beaucoup pour nous. Depuis que Biden est président, le monde va mal.
La tuerie n'a pas changé son avis sur la régulation des armes à feu. Même vision pour John, arme de poing solidement accrochée à sa ceinture.
Nous enlever les armes ? Non, je ne voterai pas pour. J'ai mon arme depuis 20 ans. J'espère ne jamais avoir à m'en servir, mais je crois au fait de défendre ma famille, ma communauté. Avec mon arme.
Mais c'est surtout la campagne très anti-migrant de Trump qui fonctionne pour Darty.
Ils envahissent la frontière. Non, c'est mauvais.
Car les Texans placent l'immigration en tête de leurs préoccupations dans les sondages. Marie n'a plus envie de voter démocrate.
Oui, j'ai vu une évolution des démocrates qui maintenant votent républicain. Je vote juste pour la meilleure personne qui se présente.
Le comté d'Uvalde reste rouge vif sur la carte du Texas. Sur les 3 dernières élections présidentielles, il vote même de plus en plus républicain. Il y a 4 ans, Donald Trump y totalisait près de 60% des votes.
Sarah Mansoura avec Alexandra Bergel. La Chine annonce viser une croissance d'environ 5% cette année, objectif à peu près équivalent au chiffre de 2023. Le Premier ministre chinois l'a dit ce matin en ouverture de la session annuelle du Parlement. C'est l'une des croissances les plus faibles depuis plusieurs décennies. La 2e économie mondiale est confrontée à une période de ralentissement inédite. On retiendra aussi la montée en puissance de l'appareil militaire chinois. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
En direct de Pékin, vous étiez ce matin au Palais du Peuple et sur fond de tension avec Taïwan, le budget de la défense continue de progresser fortement.
Oui, c'est ça. Quelques semaines à peine après l'élection d'un nouveau président à Taïwan, que Pékin qualifie d'indépendantiste radical, les propos du Premier ministre chinois Li Qiang ne sont pas passés inaperçus.
L'armée devra renforcer ses entraînements et sa préparation au combat et défendre fermement notre souveraineté, notre sécurité et nos intérêts. Il est impératif d'accélérer la mise en œuvre de grands projets de développement de la défense nationale. Les gouvernements à tous les échelons doivent les soutenir énergiquement.
Et pour accompagner ces objectifs, le soutien financier est conséquent une nouvelle fois. Le budget de la défense progresse de plus de 7%. La Chine va y consacrer en 2024 231 milliards de dollars. C'est le premier budget de l'État derrière même une autre priorité pour le régime communiste, la sécurité publique. Des investissements massifs qui permettent à la Chine de moderniser en permanence son appareil militaire sur fond de tension avec Taïwan, effectivement, mais aussi d'une présence chinoise de plus en plus visible en mer de Chine méridionale. Même si des questions se posent sur l'efficacité de l'armée populaire de libération, secouée par des scandales de corruption et une série de limogeages ces derniers mois, la Chine a changé 2 fois de ministre de la Défense en 2023. L'un d'entre eux a subitement disparu l'été dernier, sans explication.
Sébastien Berriot. Et ce matin, Manille annonce que 4 membres d'équipage philippin ont été blessés dans un incident avec des navires des gardes-côtes chinois.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Comme attendu, les parlementaires ont largement approuvé hier l'inscription de l'IVG dans la Constitution et pour Emmanuel Macron, c'est une fierté française.
Le chef de l'État propose la première cérémonie de scellement ouverte au public. Elle aura lieu vendredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Inscription approuvée avec 780 voix pour et 72 contre. Une nouvelle liberté garantie, mais en réalité, faute de place dans certains centre, avorter n'est pas toujours simple. En moyenne, 17% des femmes doivent changer de département pour le faire. Et parmi les obstacles dans l'accès à l'avortement, il y a la question de la formation des médecins, Tara Schlegel.
Rappelons d'abord que de 1984 à 2003, la France n'a formé aucun gynécologue médical, uniquement des obstétriciens. La spécialité centrée sur la santé sexuelle des femmes avait tout simplement disparu. Aujourd'hui, dans la formation des gynécomèdes, aucun stage n'est prévu en orthogénie, entendez, dans les centres d'IVG. Claire Proust, qui vient de finir ses études de gynécomède, confirme.
On n'a pas d'obligation de passer dans des services d'orthogénie. Dans notre maquette, on a des obligations de passer en gynécologie obstétrique, en endocrinologie, en procréation médicalement assistée, mais pas en orthogénie.
Résultat, à Tours, où exerce la jeune femme, sur les 10 collègues formés en même temps qu'elle, aucun n'a choisi de se consacrer à la question de l'avortement. Et pour les gynéco-obstétriciens, spécialité qui dure 5 ans et non pas 4, là non plus aucune obligation de stage, poursuit Claire.
Dans les centres de santé sexuelle, il y a des médecins souvent généralistes qui voient les patientes en pré-IVG et s'il y a besoin de faire une aspiration au bloc opératoire sous anesthésie générale, dans ces cas-là, c'est les gynécologues obstétriciens qui les font. Mais vous voyez, ils ne connaissent pas la patiente parfois. Donc en fait, c'est eux qui font le geste, mais ils ne font pas toute la prise en charge autour de l'interruption de grossesse.
Un peu comme si ce n'était pas une pratique assez noble. D'ailleurs, ajoutent les internes, il faut souvent batailler au bloc opératoire pour obtenir des créneaux, car l'avortement est rarement considéré comme une véritable urgence, sauf dans quelques grands centres.
Scientifiques en rébellion, c'est le nom d'un collectif dont 6 membres de la branche française sont poursuivis à Munich, l'une des principales places économiques européennes. Leur procès s'ouvre aujourd'hui. En octobre 2022, ils ont mené une série d'actions de désobéissance civile non violente pour dénoncer l'inaction climatique. L'organisation risque des centaines de milliers d'euros d'amende. Ils sont accusés d'intrusion, de dégradation de matériel et d'entrave à la circulation, Mathieu Laurent.
Cibler les locaux du fonds d'investissement BlackRock, le musée BMW et une artère de Munich bloquée. Sylvain Cupel, chercheur en hydrologie, est l'un des 6 accusés.
BlackRock est le plus grand fonds d'investissement au monde avec 10 000 milliards d'euros investis, dont près de 300 milliards dans les énergies fossiles. Ensuite, l'État allemand a une certaine inertie à faire changer la politique autour des mobilités vers une décarbonation des transports. Et en lien avec la mobilité, BMW est un des plus gros constructeurs de voitures au monde, jusqu'à des questions même de greenwashing, en faisant croire que ces modèles électriques qui pèsent plus de 2 tonnes ont des émissions zéro carbone, comme ils l'affichent notamment dans le musée que nous avons envahi.
Tout en soulignant la disproportion de la réponse judiciaire immédiate, jusqu'à 6 jours de détention provisoire, ces militants de la cause écologique comptent bien assister à l'audience sur le décalage entre leurs constats et les décisions politiques. Sylvain Cupel.
On souhaite vraiment faire de ce procès une tribune pour vraiment porter la voix de la désobéissance civile considérée comme nécessaire. On se désole de voir ce qui arrive. On est vraiment atterré de voir que c'est pas pris en compte. Donc on essaie d'articuler ça dans la défense qu'on va présenter.
Peu après leur arrestation, 1300 collègues de ces membres du collectif scientifique en rébellion avaient signé une lettre de soutien intitulée « Ne nous trompons pas de coupables ».
UFC Que Choisir et la CLCV, Association de Consommateurs, regrettent de ne pas avoir été concertés sur l'accord passé avec EDF sur une nouvelle régulation des prix de l'électricité. Ce projet, présenté mi-novembre, tarde à être mis à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Alors que les factures ont déjà beaucoup augmenté, le système retenu par le gouvernement prolonge et amplifie l'exposition des consommateurs à des prix de marché internationaux artificiels, estime Antoine Autier. Il est responsable des études de chez UFC Que Choisir.
La facture des consommateurs, au départ, serait intégralement exposée à l'évolution des prix sur les marchés internationaux et il y aurait juste une compensation qui serait faite aux consommateurs sur la facture au regard des bénéfices qu'engendrerait EDF en vendant sa production nucléaire sur les marchés plutôt qu'à les vendre à prix coûtant aux consommateurs. Le problème, c'est que cette redistribution ne toucherait qu'une partie et assez faible des bénéfices engendrés par EDF. Aujourd'hui, il faut revoir finalement le dispositif pour qu'il ne soit pas aussi défavorable aux consommateurs. Il y a un principe de base. On a un parc de production qui est très largement public, et ben le public doit bénéficier de prix qui soient en lien avec ses coûts de production. Et deuxième point, dans le projet actuellement porté par le gouvernement, les consommateurs paieraient les investissements d'EDF dans la nouvelle centrale. Donc que les consommateurs doivent payer le renouvellement du parc nucléaire, bon c'est une question, mais en tout état de cause, si on dit aux consommateurs « vous devez payer les investissements dans le nouveau nucléaire, ben, la moindre des choses, c'est de dire aux consommateurs que l'énergie produite par ces nouvelles centrales, finalement, entreront dans le champ de la régulation.
Antoine Autier, chez UFC Que Choisir, des propos recueillis par Marie Viennot. Les nuages se maintiennent sur la plupart de la France aujourd'hui, avec toujours du soleil dans le sud-est. 10 degrés maximum cet après-midi à Lille, comme à Paris et Rennes. 11 attendus à Bordeaux et Lyon, jusqu'à 15 degrés à Nice et Perpignan. La Charente-Maritime reste en vigilance orange au cru. 8h15.